l'une des plus grandes tragédies du monde actuel est celle des pères démissionnaires. Je crois que la plupart des problèmes du monde pourraient être résolus si des pères, selon Dieu, se trouvaient à la maison. Nous allons vous partager dans les prochaines minutes un message intitulé « Enseignement d'un père ». Il y a des choses que l'apôtre Paul, en tant que père spirituel, a partagées avec son fils Timothée. Ce sont des leçons que tout jeune a besoin d'apprendre. Vous allez y trouver quelque chose pour vous, alors tenez-vous prêt.
Bonjour, je suis Bélez Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Aujourd'hui, je veux prendre un moment pour prier avant de lire la parole. Si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir à 1 Timothée. On va rester là toute la matinée. On ne lira pas d'autres livres. Je ne crois pas. Vous savez, quand il s'agit du salut ou de la révélation par la parole de Dieu, cela ne dépend absolument pas de nous. Quand Jésus a dit à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes ?» Les uns disent une chose, d'autres une autre. Il a dit « Et d'après vous, qui suis-je » Pierre a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui a dit « Ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Il faut une révélation de Dieu pour être sauvé. Dieu révèle Jésus à notre cœur. Même si je voulais y arriver par moi-même, je ne le pourrais pas. Seul le Saint-Esprit le peut. Quand il s'agit de la vérité de la parole de Dieu, une révélation du Saint-Esprit peut littéralement changer toute votre vie. Je me rappelle encore quand j'étais un jeune chrétien, et à ce jour, cela fait, je ne sais pas, 47 ans, quelque chose comme ça, que je suis disciple de Jésus. Quand j'étais jeune chrétien, je fréquentais ce qu'on appelait la petite grange, un magasin d'alimentation, un petit espace de rencontre pour les cow-boys et les gens de la campagne. Et un évangéliste prêchait ce soir-là. Il prêchait sur Marc 4, la parabole du semeur. Cela a complètement changé ma vie. C'est le message le plus important que j'ai jamais entendu prêcher de toute ma vie. J'ai compris l'importance de la parole de Dieu ce jour-là, et cette révélation n'a pas cessé de progresser depuis. Mais je me souviens encore être sorti de cette réunion transformé, et je le suis toujours à ce jour. Une interaction avec la parole de Dieu, une révélation du Saint-Esprit qui vous ouvre les yeux, peuvent tout changer pour vous. Voulez-vous prier avec moi pour nous soumettre au Saint-Esprit et nous préparer à ce que de bonnes choses se produisent? Peut-on faire cela? Prions. Père Céleste, nous venons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te remercions de pouvoir accéder immédiatement auprès de toi en tout temps parce que nous sommes de la même famille. Tu as dit que nous pouvions nous approcher avec assurance du trône de la grâce, obtenir ta compassion et trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Père, nous venons en cet instant. Nous te demandons un esprit de sagesse et de révélation alors que nous étudions ta parole ensemble. Ouvre les yeux de nos cœurs. Fais que nos yeux spirituels voient et que nos oreilles spirituelles entendent. Seigneur, nous demandons cela car nous voulons pratiquer ta parole et pas seulement l'écouter. Nous voulons être des participants. Saint-Esprit, nous saluons ta sainte présence ici. Nous te remercions pour ton œuvre au milieu de nous et en nous. Au nom de Jésus, Amen. 1 Timothée 1:2 dit « À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul écrit à Timothée comme à un fils, mon enfant véritable dans la foi, bien que je sois sûr qu'il avait de nombreux fils. Il n'y a que trois hommes dans la Bible qui sont désignés comme tels. Paul ne mentionne spécifiquement que ces trois hommes comme étant ses fils. L'un, c'est Timothée, l'autre, Tite, et enfin, Onésime. Cela vaut la peine d'étudier la vie de ces trois hommes. Ce que je voudrais faire, c'est étudier plusieurs choses. En fait, ce sont sept choses en tout que Paul a transmises à Timothée comme un père à son fils. Et nous ne savons pas si Paul a jamais été père au niveau physique, mais il était vraiment père au niveau spirituel. Ces sept choses sont ce que tout père devrait s'efforcer de transmettre à ses fils et à ses filles. Nous allons rester dans le concret aujourd'hui. Il y a sept choses que ce père a transmises à son fils et a téléchargées dans sa vie. En tant que père, il y a des choses que chacun de nous devrait essayer de télécharger dans la vie de nos enfants. La première chose, et il l'a fait par instruction verbale ou simplement en donnant l'exemple, la première chose, et Paul en a montré l'exemple à Timothée, c'est que vous devez définir et remplir votre rôle dans la vie en tant que père. Définissez et remplissez votre rôle dans la vie. Un des plus grands cadeaux que nous puissions donner à nos enfants est de vivre notre vie en suivant notre destinée. Tout le monde dit notre destinée. Écoutez ces versets. C'est 1 Timothée 1:1. Il est dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Au chapitre 2, verset 7, il écrit: Pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Paul dit: Sachez-le, je suis un apôtre appelé par Dieu, c'est ma voie. C'est ce à quoi il m'a destiné, ce pourquoi il m'a appelé. Je suis un apôtre, je suis un prédicateur, je suis un enseignant. Il savait à quoi il avait été appelé. Il suivait sa destinée. Vous savez, les pingouins sont destinés au climat froid et aux eaux glacées. Les aigles sont destinés à prendre leur vol et à vivre dans les hauteurs. L'autruche est destinée au climat aride et à vivre sur le sol. Ce sont tous des oiseaux. Mais Dieu les a tous créés différents. De même, nous avons tous une destinée unique. Certains sont appelés à prêcher, à enseigner et à diriger. D'autres sont appelés à concevoir des plans, à organiser, à construire et à créer, et ainsi de suite. Ce sont juste des choses différentes auxquelles Dieu nous a appelés. Chacun d'entre vous a reçu de Dieu une destinée, et Dieu a voulu que vous viviez ici, en ce moment. C'est bon de savoir ce pourquoi nous sommes nés. Je parlais avec un ami l'autre jour, en fait on s'envoyait des textos, il vit dans un autre pays et il est entrepreneur. Il a eu beaucoup de succès dans les affaires, il est très généreux et apporte un soutien substantiel à l'Évangile dans son pays. Et il a ce nouveau projet sur lequel il travaille et nous échangions à ce sujet. Je lui ai dit ce que j'en pensais. C'est remarquable et je crois que cela aura un grand impact sur le royaume. Et il ne m'a écrit que 5 mots. Il m'a répondu par un texto disant « Je suis né pour ça ». Il vit sa vie dans sa destinée. Quand on se sent à l'aise dans son rôle, celui auquel Dieu vous a destiné, votre vie se transforme en un sermon. Installé dans le rôle qui est le vôtre, vous pouvez prêcher avec puissance et parler avec une puissance qui va impacter la vie de vos enfants. Quand un enfant voit que son père s'enthousiasme pour son travail et s'y épanouit, c'est une grande source d'inspiration. Mais quand un père est apathique, s'ennuie et est insatisfait de sa vie au travail, cela ne donne pas le bon exemple à son fils ou à sa fille. Au lieu de dire « J'ai terriblement peur de devenir comme mon père », un fils ou une fille devrait pouvoir dire « Je veux devenir comme mon père ». Il aime son travail. Sa vie est pleine de couleurs, d'aventures et de défis. Il n'est peut-être pas connu sur terre, mais je vous le dis, des hommes comme lui sont connus au ciel. Je veux être comme mon père, je veux voir la vie comme il la voit. Quand il rentre, il est content de son travail, il est content de subvenir aux besoins de sa famille, il est content de ce qu'il fait, que ce soit un travail manuel, sur un ordinateur ou autre. Voilà le genre d'exemple que nous voulons donner à nos enfants. Voici une dernière pensée sur ce sujet. Parfois, souvent, peut-être même avant d'être sauvé, les gens découvrent leur raison d'être et leur destinée. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Mes amis, vous êtes des êtres spirituels, vous avez une âme, vous vivez dans un corps physique. Je crois que même avant d'être sauvés, les gens, par intuition, pas toujours, bien sûr, pas toujours, mais souvent, les gens découvrent la destinée que Dieu a pour eux. J'y pensais l'autre jour. L'apôtre Paul, avant de venir à Christ, était un érudit religieux et enseignait les Écritures. Pourquoi n'était-il pas politicien? Pourquoi n'était-il pas un homme d'affaires? Je crois que c'est en rapport avec l'ADN spirituel. Je crois que pour beaucoup de gens, c'est la même chose. Qu'il s'agisse de faire du théâtre, d'enseigner, de bâtir, de créer, de travailler de ses mains ou de diriger les autres, ils ont juste découvert exactement ce pourquoi Dieu les avait créés. Je repense à ma vie. Même quand j'étais jeune, quoi que je fasse avec les autres jeunes, j'étais toujours le meneur. Si on bâtissait un fort, je prenais les commandes. Certains disaient que c'était de l'autoritarisme. Je crois que c'est mon ADN spirituel qui se manifestait. Si on faisait une randonnée dans les bois, j'étais le meneur. Si on jouait à un jeu d'une manière ou d'une autre, j'étais le meneur. C'était une chose toute naturelle pour moi et quand j'y repense, je crois que cela venait de Dieu. C'était juste l'ADN de Dieu qui se manifestait. La seconde chose sur les pères que nous apprenons de l'apôtre Paul, c'est que les pères doivent être un exemple d'humilité. 1 Timothée 1, 12 à 15 dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance, dans mon incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Paul connaissait les dons qu'il avait reçus, mais il était aussi très, très conscient du fait que tout ce qui était bon dans sa vie était un fruit de la grâce de Dieu. Ce n'était pas lui qui y arrivait par ses propres forces en ce qui concernait le salut et sa réussite. Il était conscient que cela ne venait pas simplement de sa volonté ou de ses efforts humains. C'était le fruit de la grâce de Dieu et de sa réponse à la grâce. En tant que père, nous devons être des modèles d'humilité au niveau du salut et de nos réussites, quelles qu'elles soient. Nous avions l'habitude d'organiser périodiquement des petits déjeuners spécifiques pour les hommes et les femmes d'affaires. Et nous invitions à l'église un homme ou une femme d'affaires qui avait réussi pour partager avec eux. Je me souviens de l'un d'eux en particulier qui était avec nous il y a quelques années. C'était quelqu'un de l'église. C'est un de mes amis et il possède toute une série de restaurants très prospères. En fait, si vous habitez la région, vous avez probablement déjà mangé dans l'un d'eux. Il a donné des conseils très sages. C'était surtout de bons tuyaux très pratiques pour ceux qui travaillent dans les affaires. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est son humilité. Il ne s'empressait pas de se vanter ou de dire « Regardez ce que j'ai fait !» Mais il honorait toutes les personnes qu'il avait aidées à arriver là où il était. Et par-dessus tout, il remerciait Dieu. Il a dit « C'est simplement la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. » Il a partagé des conseils pratiques, mais il s'est aussi montré reconnaissant envers les gens. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas arrivé là tout seul. C'est important d'être un exemple d'humilité. Bon, on arrive à la troisième chose. Les pères, les bons pères, encouragent leurs enfants à entrer dans leurs dons. Encouragez vos enfants à entrer dans leurs dons. Je veux lire deux versets avec vous, 1 Timothée 1, 18 d'abord. Il est dit, « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat. » Il y fait de nouveau référence dans 1 Timothée 4, 14 et 15. Écoutez, « Ne néglige pas le don que tu as reçu. Celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ne néglige pas le don qui est en toi, Timothée. » Le don auquel Paul fait allusion est bien sûr surnaturel, mais Dieu a placé des dons en chacun de nous. Chaque personne a des dons naturels dans certains domaines, et je crois encore une fois que cela se rapporte à notre ADN spirituel. Je suis si reconnaissant à mon Père, qui est au ciel depuis plusieurs années maintenant, de n'avoir jamais essayé de me faire entrer dans son moule. Il m'a toujours encouragé et m'a laissé découvrir ma propre voie et où était ma place. Il n'a jamais essayé de faire pression sur moi. Mon père était dentiste. Il n'a jamais essayé de me pousser à devenir dentiste. J'aurais été un terrible dentiste. Mon père était un super fanatique de football. Bear Bryant lui avait offert une bourse d'études complète quand Bear Bryant était entraîneur au Kentucky. Les familiers du football universitaire vont savoir ce que cela signifie. J'ai toujours la lettre que Bear Bryant a écrite à mon père. Mon père était une star du football dans l'État de Virginie-Occidentale. Il était connu dans tout le pays. Quand il s'agissait de sa passion pour le foot, il devenait totalement enragé. Mais il ne m'a jamais poussé et je n'ai jamais joué. Il y avait d'autres sports que je préférais et il m'a encouragé à les pratiquer. Je suis si reconnaissant pour la sagesse que mon père a montrée dans ce domaine. Comme je l'ai dit, il m'a laissé le champ libre. Nos propres enfants, la plupart d'entre vous connaissez bien sûr notre fils aîné Harrison, il est pasteur principal ici à Cottonwood. Mais nous avons deux autres enfants, vous le saviez ? Ce sont des jumeaux, Rebecca et Spencer, et nous sommes aussi fiers d'eux que de Harrison. Rebecca murmure aux oreilles des enfants, elle l'a toujours fait. Elle a un don merveilleux pour les enfants. Elle est institutrice, elle enseigne le CM1. Notre fils, Spencer, est musicien. Un musicien extraordinaire et ingénieur du son. En fait, ce matin, il est en train de régler le son dans une autre église, mais il travaille dans un grand studio de Los Angeles. C'est un ingénieur du son incroyable. Nous les encourageons simplement. Découvre ton don et quoi que tu fasses, nous voulons que tu le fasses de tout ton cœur. Et en fin de compte, fais-le pour la gloire de Dieu. Si aucun de nos enfants n'était devenu prédicateur, j'aurais été d'accord. C'est Dieu qui suscite la vocation. Je pense à certains de mes amis. L'un d'eux en particulier était un ami très proche quand j'étais jeune. Son père ne faisait que le menacer et le harceler pour qu'il entre dans l'entreprise familiale. Il ne voulait pas, mais il l'a fait. Il le menaçait, « Je vais te couper les vivres, etc., etc., si tu continues. » Il ne savait pas comment s'en sortir. Il ne ressentait aucune envie de le faire. Si l'on s'en tient strictement à l'aspect financier, il a eu une carrière très réussie. Mais il a été très malheureux tous les jours, pendant des dizaines, des dizaines et des dizaines d'années. Malheureux chaque jour. Il était comme la cheville carrée du proverbe qu'on a martelé et forcé à entrer dans un trou rond. J'ai un autre ami. Sa famille possédait une scierie depuis des générations, un commerce de bois très lucratif. Son père et tout le monde s'attendaient à ce qu'il prenne la relève. Tu penses, la richesse qu'on hérite tout d'un coup, et la grande entreprise est déjà là. Mais il a dit, tu sais quoi ? Je sais que tu veux que je le fasse, je sais que tu t'y attends, mais je ne veux pas diriger une scierie. Il a dit, je me sens destiné à être architecte d'intérieur. C'est ce que je veux faire. C'est ce qui me passionne. Alors il a pris son courage à deux mains et s'est lancé. Il a très bien réussi comme architecte d'intérieur. Non, il n'a pas eu la richesse qui aurait été sienne s'il avait été le directeur et le propriétaire de la scierie. Mais il était épanoui tous les jours. Et pour dire vrai, je crois que son influence a été beaucoup plus grande et qu'il a touché beaucoup, beaucoup plus de gens parce qu'il a suivi son don. Je veux juste encourager les pères qui sont ici. Découvrez les dons de vos enfants et encouragez-les dans cette voie. Dans Proverbe 22:6, nous connaissons tous ce verset. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Écoutez la version Darby. Elle fait ressortir l'hébreu. Il est dit, Proverbe 22:6, élève le jeune garçon selon la règle de sa voie. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Élève-le ou élève-la selon la règle de sa voix, en fonction de ses dons personnels ou de ses penchants. Vos enfants, mes enfants, chacun de nous avons un penchant personnel, un don inné. Cela nous oriente vers la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie et le rôle dans lequel notre vie sera le plus efficace. Bien, passons à la quatrième chose. Les bons pères avertissent leurs enfants des dangers. Ils les avertissent des dangers. Cela contribue à les préparer à la vie. Je vais lire plusieurs versets, mais n'oubliez pas que c'est Paul qui a écrit à son fils Timothée. 1 Timothée 4, 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Méditez là-dessus. Il dit, écoute Timothée, il va se présenter des gens qui seront sous l'influence de démons. Leur conscience sera marquée au fer rouge, ils te joueront de mauvais tours et ils n'y réfléchiront pas à deux fois. Ils disent des mensonges et sont des hypocrites. Il dit au chapitre 6, verset 3, « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telle personne. » Alors imaginez le genre de personne dont il parle. Il dit, écoute, tu vas vivre ces choses et tu vas rencontrer des personnes comme cela. Tu vas être confronté à des gens pleins d'orgueil, qui veulent les conflits et qui ne pensent qu'à se battre. Ils seront jaloux, ils vont susciter des disputes, ils sont privés de la vérité, ils ont l'intelligence corrompue. Timothée, tiens-toi prêt. Cela fait partie du monde dans lequel tu vas évoluer. Il continue dans 1 Timothée 6, 9 à 11. « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. » Timothée, il y a aussi des gens cupides autour de toi. Il y a des charlatans et des escrocs dans le monde. Et dans l'Église, tu vas trouver des apostats et des imposteurs. Il ne faut pas que tu tombes des nues quand tu en rencontreras. Ils font juste partie du décor. C'est juste la vérité. C'était vrai à l'époque, c'est vrai aujourd'hui. Un bon père prépare ses enfants à ces choses. Ceux qui protègent leurs enfants et les mettent à l'abri en leur cachant que la vie est aussi faite de gens peu recommandables, de trahisons et de déceptions, ne rendent pas service à leurs enfants. Mes amis, c'est vrai. Le père qui ne prépare pas ses enfants à ces choses ne lui rend vraiment pas service. Et vous savez, ce message sera encore meilleur au fur et à mesure et va vous mettre aussi plus au défi dans certains domaines. Alors joignez-vous à nous la prochaine fois pour la deuxième partie de ces enseignements d'un père. Si vous me regardez en ce moment et que vous êtes mère célibataire, écoutez, vous êtes une héroïne. Je prie pour que la grâce de Dieu vous aide. Dieu peut agir et faire des choses, même si la situation n'est pas idéale. Vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas assez équipé pour élever vos enfants. Vous pensez, que faire? Il n'y a pas de père à la maison. Demandez à Dieu de vous aider. Dieu peut faire des choses surnaturelles et vos enfants vont peut-être changer le monde. Quelle que soit votre situation, je veux vous dire que Dieu se soucie de vous. Il vous aime et il veut vous aider au nom de Jésus.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.